Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un verset ce matin. Ce sera basé sur un verset en particulier, c'est Proverbe chapitre 23 et le verset 26. Proverbe 23, 26. On va tourner autour de ce thème. C'est le verset 26 et c'est la première phrase. La première phrase. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Bon, dans le contexte de Proverbe, c'est soit Salomon qui dit à l'un de ses fils, donne-moi ton cœur, soit c'est Salomon qui raconte ce que son père lui a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dans chapitre 30, ou à peu près chapitre 30 de Proverbe, 31, parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Et là, vous avez une femme, la mère qui parle à son jeune prince, qui va devenir le roi. Lémuel, c'est aimé de l'Éternel, c'est un autre nom pour Salomon. Et sa mère, c'était qui? Bathsheba. Et donc, c'est Bathsheba qui donne des conseils à son fils. Et donc, dans le chapitre 23, il est tout à fait possible que c'est Salomon à qui on s'adressait, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Mais ce n'est pas vraiment important de savoir qui était le fils. Ce qui est important, c'est le concept. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, pour être politiquement correct, on peut ajouter ma fille. « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » C'est quelque chose que tous les parents aimeraient bien dire à leurs enfants à certains moments quand ils sont en crise ou quand les parents sentent qu'ils ne sont plus écoutés, plus obéis, on n'observe plus ce qu'ils disent, on se moque d'eux, on voudrait leur dire, on ne sait même pas si ça passerait bien, mais on voudrait leur dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Autrement dit, donne-moi tes oreilles, écoute vraiment ce que je te dis, prends au sérieux ce que j'ai à te dire. Je t'aime tellement, je voudrais que ta vie réussisse. S'il te plaît, écoute-moi. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu fait avec nous? S'il te plaît, écoute-moi. Il passe son temps à le dire, écoute-moi. À travers tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont allés parler au peuple d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Vous le trouvez des centaines de fois. Le peuple se moque, le peuple était différent, mais Dieu a toujours eu ses prophètes qui sont allés dire, ainsi parle l'Éternel, écoute-moi, donne-moi ton cœur. D'abord, regardez la phrase, donne-moi ton cœur. D'abord, c'est un verbe impératif, c'est un ordre. Ce n'est pas s'il te plaît, c'est un ordre, donne-moi ton cœur. Ça veut dire que Dieu a le droit de nous demander de lui donner notre cœur. Il en a le droit. Non seulement ça, mais cet ordre vient d'un parent, d'un père, d'une mère, ici, on peut le prendre comme venant de Dieu lui-même. Dieu lui nous dit, donne-moi ton cœur. Et puis, il dit, donne-moi, c'est deuxième personne du singulier. Ce n'est pas, donnez-moi vos cœurs. Et on pourrait se perdre un peu dans la masse, pourvu qu'il y ait un certain pourcentage qui lui donne leur cœur. Bon, moi, je n'ai pas besoin de le faire. Non, c'est tout à fait personnel, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta manière de penser, donne-moi tes affections, donne-moi ta volonté, donne-moi ta vie intérieure. Tourne ton cœur vers moi. Voilà ce que Dieu nous dit. Quelle magnifique invitation. C'est un ordre, c'est en même temps une invitation. Et on voit, pour obéir à cette phrase, je suis obligé de donner à Dieu ce qui est le plus précieux. Mon cœur, si mon cœur est comme une maison avec plein de pièces et plein de portes, que s'il me dit « donne-moi ton cœur », je dois donner le passe-partout. Tiens, voilà, tu peux ouvrir les placards, les chambres, tu peux aller partout, tu peux fouiller partout. Tout ce que je suis, tout ce qui est le plus précieux, mes pensées les plus profondes, je te les livre, entre. Je veux que tu regardes, je veux que tu sois libre de travailler en moi. Mais C'est un ordre, mais on n'est pas obligé d'obéir. Il n'a pas dit « je te prends ton cœur ». Il n'a pas dit « je t'oblige à me donner ton cœur ». Il dit « donne-moi ton cœur ». Autrement dit, tu as la capacité, la possibilité de ne pas me le donner. C'est ce qu'a fait Israël. On a cité tout à l'heure cette phrase de Jésus. J'aurais tellement voulu rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il a dit, j'aurais voulu. J'aurais pu. Je l'aurais fait. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu me donner votre cœur. Et quelle est la suite de ce verset? Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le Seigneur dit, si tu ne me donnes pas ton cœur, et tu peux ne pas me le donner, la seule chose qui te restera, c'est la désolation. Et ce sera la désolation jusqu'au jour où tu me le redonnes. Terrible. Donne-moi ton cœur. Alors, pourquoi il dit mon fils? Dans quel sens sommes-nous les fils de Dieu? Mais dans le sens d'abord que tous les êtres sont les fils de Dieu, les filles de Dieu, c'est-à-dire les créatures de Dieu. Bien sûr, pour ne pas confondre les gens, on ne dit pas qui sont les enfants de Dieu, parce que la Bible est très claire, on devient enfant de Dieu en Jésus-Christ. Mais dans un sens, nous sommes des enfants de Dieu, rien que parce que nous sommes des êtres humains. Les animaux n'ont pas le même statut. On ne pourrait pas les appeler des enfants de Dieu, comme un être humain est un enfant de Dieu. C'est une créature de Dieu. Dans quel sens? Mais d'abord, nous sommes à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. C'est quoi l'image de Dieu? Comment il est Dieu? Mais il est un esprit. Il est une âme. Il est immortel. Il est même éternel. Il a le sens de l'éternité parce qu'il est éternel. Et il est parfait. Et qui sommes-nous? Nous sommes un esprit, une âme. Nous avons un corps. Nous avons la pensée de l'éternité. Nous avons la pensée de la perfection. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et il dit aussi à notre ressemblance. Nous ressemblons à Dieu. Dans quel sens? Ben parce que d'abord nous avons une conscience. On a la différence entre le bien et le mal qu'a Dieu, qui est saint. Nous avons de l'intellect. On arrive à réfléchir sur les choses qu'on ne voit pas. L'amour, la jalousie, la peur sont des choses qu'on n'a jamais vues, mais on sait parfaitement ce que c'est. On peut raisonner sur les choses abstraites qui pour nous sont réelles. Il y a l'émotion, on a des émotions. Mais quelles émotions? Des fleuves d'émotions, de toutes sortes. On a une volonté, on sait faire des choix aussi. Devant deux possibilités, on peut dire j'ai décidé d'aller par-ci ou j'ai décidé d'aller par-là. On peut choisir un métier, mais on peut choisir aussi dans n'importe quelle situation, ça serait la meilleure voie, je la choisis, ou on dit, ça serait la meilleure voie, mais je vais prendre l'autre. Parce qu'on a la capacité de faire des choix. Dans ce sens, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Dieu aussi fait des choix. Il a aussi de l'émotion. Ce n'est pas quelqu'un de froid, notre Dieu. Il est quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Il a de l'émotion. Il n'est pas dirigé par ses émotions. Mais il en a. Il a de l'amour, il pleure. Enfin, nous sommes a été faits à sa ressemblance. Le psalmiste a dit en psaume 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu dit, vous êtes des dieux, vous êtes un peu comme moi. Je vous ai créé à mon image. Le témoignage de Jésus, quand il a dit, Jésus leur répondit, n'a-t-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, il continue, pourquoi vous me critiquez? Parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Donc, nous sommes des dieux, attends, des minuscules, dans la mesure où nous sommes créés à l'image de Dieu, que Dieu s'adresse à nous, ses créatures, et nous pouvons nous adresser à lui. Alors, on n'est pas Dieu, bien entendu, mais on est à sa ressemblance. L'apôtre Paul dit aux Athéniens, en Actes chapitre 17, « En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race de Dieu. Il dit donc, étant la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent. Il dit, c'est une évidence. Notre conception de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas vraiment croire qu'une idole soit Dieu. Dieu ne peut pas être un objet matériel. Parce que toute notre conception spirituelle, c'est quelque chose d'immatériel. Donc Dieu doit être immatériel, infini, mais dépassant tout ce qui est physique et matériel. Dépassant l'argent, l'or, encore plus la pierre et le bois. On n'en est pas là. L'idolâtrie, c'est grossier. Ça n'a aucun sens. Parce que nous savons qu'un être suprême n'est pas lié à des affaires matérielles. Il n'est pas fermé dans des affaires matérielles. Et puis alors, nous sommes remplis d'informations, comme tous les êtres vivants. Dans nos cellules, il y a de l'ADN qui nous explique, enfin qui donne toutes les informations pour faire que chacun de nous est absolument unique parmi tous les êtres humains de la planète qui ont toujours vécu. Et il n'y a pas deux êtres humains qui soient exactement les mêmes. Et nous avons cette information dans nos cellules que si on pouvait le coucher sur le papier, remplirait 25 encyclopédies écrites petits. Nous sommes bourrés d'informations. Et ces informations, on ne peut pas, on ne peut jamais émettre une information sans être intelligent. Et on ne peut jamais décoder ou comprendre une information sans intelligence. N'importe quelle information qui est donnée dans n'importe quel domaine est la preuve qu'il y a de l'intelligence derrière. Le hasard ne donne aucune information. Ce qui fait que dans nos cellules, nous avons des milliards d'informations. Ça en dit long sur la personne qui nous a dessinés et qui nous a créés. C'est quelqu'un d'infiniment intelligent. Et donc nous sommes ces informations dans notre ADN. Nous avons de l'intelligence. À notre tour, nous pouvons donner des informations. Nous pouvons les recevoir. Dieu peut nous parler. Nous pouvons lui comprendre. Nous pouvons lui parler. Il peut nous comprendre. Tout ça, c'est vrai de tous les êtres humains. Donc Dieu a le droit de dire, parce que je t'ai créé, que tu es ma créature, mon fils, donne-moi ton cœur. Il peut le dire. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, pour nous, en Jésus-Christ, bien sûr. En Jésus-Christ, ça va plus loin, nous sommes de la famille de Dieu. Si Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, ma fille, donne-moi ton cœur, il parle aussi dans le cadre familial. Il est notre Père. Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir ou l'autorisation de devenir enfants de Dieu. Vous et moi, nous avons reçu l'autorisation de notre propre Père céleste de devenir son enfant. Et quand nous disons, je suis un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu nous le certifiait, c'est pas parce que nous l'avons imaginé, c'est lui qui nous en a donné l'autorité. Mais nous sommes non seulement enfants de Dieu, mais nous sommes devenus aussi en Christ. Et bon, nous sommes devenus en Christ et Dieu veut que nous le vivions. Et on va regarder Actes, plutôt Romains chapitre 8. Dieu veut faire de nous non seulement des enfants de Dieu, mais en Jésus-Christ, on est des fils adultes. Nous sommes des fils adultes, ou on pourrait dire autonomes. On pourrait dire même des enfants devenus grands, des majeurs, associés à Dieu. Associés. Dans le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le statut de fils du temps romain, c'était un statut qu'on donnait à la majorité de l'enfant. Quand il devenait adulte, on faisait une cérémonie d'adoption, même pour son propre enfant biologique. On faisait une cérémonie d'adoption, on disait « tu es arrivé à la majorité ». Et si le père était responsable d'une entreprise quelconque, il disait « aujourd'hui, je prends mon fils comme partenaire à titre égal ». On pouvait enlever le panneau « entreprise monsieur un tel » et on mettait « entreprise monsieur un tel et fils ». Et le père pouvait dire devant n'importe quel client « il faut que je parle à mon associé ». On va se consulter et je vous donnerai la réponse. Il consultait son fils comme un égal, parce qu'il était devenu homme, et il le prenait comme associé. Et c'est comme ça que Dieu veut nous traiter aussi comme des enfants de Dieu adultes, autonomes. Autrement dit, Dieu ne se plaît pas à nous dire « fais ceci parce que je te l'ai dit, parce que si ton Dieu, tu dois m'obéir ». Il y a des gens qui disent alors, si on est chrétien, est-ce qu'on a le droit de dire faire ci et de faire ça? Est-ce que votre église me donne le droit? Que dit le pasteur? Est-ce qu'il me donne le droit? C'est un langage d'enfant. Un enfant dit, est-ce que j'ai le droit de prendre un bonbon? Maman ne veut pas. Maman m'a interdit. Maman ne m'a pas interdit que j'en prends. C'est dans une certaine logique. Mais un enfant adulte, il réfléchit sur l'intérêt général. Il dit, je pourrais, mais tout compte fait, un fils majeur, je pourrais piquer dans la caisse, je suis associé, mais je pense à la santé de l'entreprise. Je ne vais pas piquer dans la caisse, je suis responsable. Devant l'œuvre de Dieu, Dieu nous demande d'agir comme des adultes. Il dit, vous êtes mes associés dans l'œuvre de Dieu. Comment devez-vous vivre, sachant que je vous donne la responsabilité de veiller sur mon œuvre? Salut. Et donc, le statut de fils signifie qu'on est conduit par l'Esprit dans notre vie quotidienne et dans nos décisions. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, donne-moi ton cœur. Regardez dans le chapitre 23. Le Père, Il a dit, donne-moi ton cœur, mais il a de très bons conseils à donner à son fils. Dans les versets 4 et 5, et ce sont des principes généraux de génération en génération, ce texte date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait 3000 ans que ces paroles ont été écrites. Un père ou une mère, on ne sait pas si lequel des parents, mais qui parle à son fils. Versets 4 et 5, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Il dit à son fils, attention à la cupidité. Les gens disent, ouais, mais il faut prendre de l'argent pour vivre. Bien sûr. Il faut être sage avec l'argent, il ne faut pas la jeter par la fenêtre. Mais il dit, attention à vouloir s'enrichir à tout prix. On devient cupide. On a toujours envie de plus. On n'est jamais satisfait. On veut amasser, amasser, amasser. Et plus on amasse, plus on veut amasser. Pour quelle raison? Il y a des gens qui ont de l'argent. S'ils dépensaient 3 ou 4 000 euros par jour, ils ne finiraient même pas la moitié du tiers de ce qu'ils possèdent. Ils vont mourir et vont tout laisser derrière eux. Et ils se sont parfois perdu leur vertu, perdu leur honnêteté pour amasser, amasser, amasser encore. Là, on parle à un prince qui normalement est riche. Mais il dit, ne sois pas cupide, ne cherche pas la richesse à tout prix. Il faut ce qu'il faut, Dieu va pourvoir, mais n'ayez pas, comme on dit, les dents longues. C'est très déplaisant. Et puis dans les versets 6 à 9, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il parle des fréquentations. Il dit à son fils, attention à tes fréquentations. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On dit aussi, ce qui se ressemble s'assemble. On peut le tourner dans l'autre sens. Ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. C'est-à-dire, nous passons plus ou moins du temps avec des gens. Il y a des gens avec lesquels on passe beaucoup de temps, notamment souvent au travail, ou dans le quartier, il y a des gens qui sont férus d'activité de quartier, passent tout le temps avec leur voisinage. Des jeunes passent beaucoup de temps avec leurs potes. Et des jeunes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils passent la journée scolaire, et puis la moitié de la soirée, une partie de la nuit, à se texter, etc. Alors qu'ils vont se voir le lendemain matin. Mais on peut être totalement inondé, totalement en osmose avec un certain nombre de personnes. Mais ce n'est pas quelque chose de neutre. Des bons amis vont nous élever et les mauvais amis vont nous traîner vers le bas. Alors on peut dire, oui, mais mon fils, il est influençable. C'est ses mauvais copains qui sont fautifs. Oui, mais aussi influençable soit-on, et on est tous influençables. Il dit, c'est à toi de choisir les gens que tu vas fréquenter. Parfois, il y a des jeunes qui font n'importe quoi pour être choisis pour être dans un groupe. Ils veulent être dans tel groupe et ils font ce qu'il faut. Le bizutage à l'origine, c'était quoi? C'est être accepté dans tel groupe. On va te le faire payer pour être accepté dans notre groupe. Mais la pensée de Dieu, c'est choisis toi-même les gens que tu fréquentes. Et il donne quelques personnes infréquentables. Des gens, verset 6, qui ont l'air sympas, mais qui te veulent du mal, qui veulent te perdre. Alors ils sont généreux, mange et bois. Vas-y, c'est offert. Mais ils ne sont pas vraiment tes amis. Et il dit, parle aussi, les gens, verset 9, ne parlent pas aux oreilles de l'insensé. Il y a des gens, dès qu'on leur parle de quelque chose de correct, de bien séant, hey, laisse tomber ton truc. Alors, on ne peut parler avec eux que si on dit des bêtises. Mais si on ne peut rien dire à eux de sérieux parce qu'ils sont insensés. Ils ne veulent pas l'entendre. Arrête avec les histoires de ton bon Dieu, tu me fatigues avec ça. Si nous fréquentons des gens qui ne nous permettront jamais de parler de choses bonnes et justes, que des bêtises, leur influence va nous tirer vers le bas. Souvenons-nous, on parle à un futur roi ici. Salomon va être roi un jour. Et ses parents tiennent beaucoup parce que de ses fréquentations et de sa manière d'être va dépendre une grande partie du royaume. La stabilité politique de son royaume va dépendre de sa sagesse et de son savoir-faire. Donc, important, la question de ses amis, ses fréquentations. Dans le verset 10, « Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. » Alors, la borne, vous savez, les géomètres, aujourd'hui, vous achetez un terrain, on vous fait le bornage. Il y a un monsieur qui vient avec maintenant c'est des appareils électroniques, qui mesure tant et tant de mètres sur le plan du cadastre, et puis il fait des petites bornes, souvent en plastique orange, il enfonce dans le sol, il fait un petit fanion au bout, et il dit, voilà, regardez, ça c'est les bornes de votre terrain, c'est borné pour 1000 mètres carrés ou autre. Mais c'est un crime que d'aller de nuit et prendre la borne et la déplacer d'un ou deux mètres, là vous gagnez quelques mètres de plus, pour votre terrain. Mais ça a été mesuré, vous avez payé ce terrain, on n'avait pas perdu, payé un mètre carré de plus. Et donc, il dit, vos ancêtres ont divisé, ont borné leur champ, ne va pas déplacer la borne que ton grand-père a mis. Ça, c'est ton champ, tu n'as pas droit à plus. C'est être scrupuleusement honnête. Le père dit à son fils ici, mon fils, sois vraiment honnête. Quand nous sommes malhonnêtes, et ça peut nous arriver, même pour une petite chose, quand quelqu'un apprend que nous avons été malhonnêtes, qu'on n'a pas été tout à fait honnête, immédiatement ils disent, dans combien d'autres circonstances est-ce qu'il a été malhonnête? Il a été malhonnête pour une petite somme ou un petit truc, mais qui vole un œuf, vole un bœuf. Peut-être qu'il deviendra très malhonnête, et une fois qu'on a cette réputation, on ne peut pratiquement jamais s'en défaire. Et puis il dit, évite les excès dans les versets suivants. Il parle des excès de viande, il parle des excès dans l'alimentation, il parle des excès de vin. Dans les versets 29, par exemple, pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Il dit, attention, les excès vont amener des maladies. On va perdre la tête, on va dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire. On va faire les actes qu'on n'aurait pas dû faire. On va faire des choses dont on ne va même pas se souvenir de ce qu'on a fait. C'est trop dangereux. Évitez, soyez toujours au contrôle de vous-même. Il parle de toutes ces choses, il parle de l'immoralité, versets 27 et 28. Donc, il parle de dangers qui guettent tous les jeunes de toutes les générations depuis que le monde est monde. Il a écrit ça il y a 3000 ans. On peut le ressortir aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On a Internet, on a nos smartphones, on a des automobiles, on a le béton armé, on a plein de choses nouvelles qui n'ont jamais existé avant, mais ces conseils-là n'ont pas pris une ride. Ce sont des dangers que Satan sème sur notre route et ce sont des choses vers lesquelles nous sommes naturellement attirés. Mais si nous nous laissons aller, nous gâchons notre vie. Et c'est pour ça que le Père dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et Dieu nous dit, « Donne-moi ton cœur, évite les pièges. » Quelle sera notre réponse? Comment est-ce qu'on peut lui donner notre cœur? Eh bien, on peut lui donner notre cœur comme un sacrifice vivant. En Romains chapitre 12, on peut vite regarder ça. Il y a trois principes là, en Romains 12. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, quand il dit « donne-moi ton cœur », il dit aussi « donne-moi ton corps ».« Donne-moi ton corps ». Bon, je vais le faire. Il dit, donne-moi tes membres. Donne-moi tes mains, tes yeux, tes pensées, ton talent, ta force physique. Donne ton corps pour les choses utiles et bonnes. Ne donne pas ton corps pour les choses mauvaises. C'est simple. Il dit, tu gardes ton corps, mais livre ton corps à ce qui est bon. Donc, ça veut dire dans les actes. Il dit, si tu le fais, si tu me donnes ton corps pour agir comme je veux que tu fasses, tu me donnes aussi ton intelligence, ta manière de réfléchir. Donne-moi ta manière de réfléchir. Il dit, parce que je vais changer ton intelligence et tu vas raisonner d'une autre manière. Ta manière de penser. Des choses dont tu disais, oh, ça, c'est pas grave. Tu vas finir par dire, si, c'est grave. Des choses dont tu disais, oh, ça, c'est pas important. Dieu dit, si je dirige ta vie, tu vas dire, ah oui, ça, c'est vraiment important. Des choses dont tu disais, oulala, j'ai peur de ça, je vais changer ta manière de penser, tu n'auras plus peur de ça. Il dit, donne-moi ton intelligence et ta manière de penser, et je vais te faire penser comme moi, un renouvellement de l'intelligence. Et puis il dit, tu expérimenteras dans ta vie de tous les jours que la volonté de Dieu est à la fois bonne, agréable et parfaite. Beaucoup de chrétiens disent, oh, la volonté de Dieu, non, je... Moi, je ne veux pas désobéir à Dieu, mais faire la volonté de Dieu, moi, comme j'imagine, il va me demander de faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. Et moi, je ne veux pas, j'ai une seule vie à vivre, je veux en profiter, je ne veux pas faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils imaginent la volonté de Dieu, c'est quelque chose de très austère, des trois. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu marches sur un chemin, sentier étroit, raide et dur. Et puis toute ta vie, tu souffres et à la fin, tu vas au ciel. Pour l'éternité, tu seras content, mais toute ta vie, tu seras malheureuse. Or, il y a beaucoup, plus d'un jeune chrétien qui pense que la volonté de Dieu, c'est un truc extrêmement restrictif. Non! Et dit, si on donne son corps à Dieu et si on donne sa manière de penser à Dieu, eh bien, on entre dans un vaste champ ouvert. C'est la volonté de Dieu. Et il dit, regarde, je suis là pour te faire épanouir. Dieu n'est pas là pour gâcher notre vie, quelle idée. Un Dieu si intelligent que le nôtre dirait, je vais te gâcher la vie, mais l'éternité sera bien. Oh non! La vie sera magnifique aussi, et l'éternité en plus. On ne peut pas perdre avec Dieu. Il dit, donne-moi ton cœur, tu verras ce que j'en ferai. Il y a deux manières de répondre. La réponse du fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait devant son père? Voyons savoir, donne-moi la part de ça, le fric, il voulait bien. Hein? L'argent, il voulait bien le récupérer. Sa part de l'héritage. Son père a divisé tous ses avoirs en deux parties, il lui a donné la moitié. Il est parti, il a tout dépensé, il s'est retrouvé sans le sou. Il s'est retrouvé à travailler pour un fermier, à nourrir les cochons, et on avait oublié de donner les casse-croûtes. Il avait envie de manger ce que mangeaient les cochons. Il mourait de faim dans ce champ boueux. Et il dit, les domestiques chez mon père sont riches à côté de moi aujourd'hui. Ils mangent bien, ils travaillent bien, ils sont bien, et moi je meurs de faim dans ce champ avec ces cochons. Mais... je ferais mieux de revenir chez mon père, confesser mon péché, lui dire j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que tu veux juste me prendre comme un domestique? Ça serait déjà bien mieux que ce que je connais aujourd'hui. Il a perdu son héritage. Mais le père lui a tout pardonné. Et il était toujours son fils. Mais il a perdu son héritage. Il y a des chrétiens, le père dit, donne-moi ton cœur. Bon, non, vraiment. Je vais vivre ma vie, il la gâche. 30 ans après, il dit, bon, c'est vrai que j'ai toujours été misérable, je sais que je n'ai pas fait la volonté de Dieu, j'ai profité des plaisirs de la vie, mais non, il faut que je retourne à Dieu. Ils reviennent dans les larmes, ils ont perdu leur vie, ils ont gâché leur vie. Est-ce que Dieu veut quand même les pardonner? Oui, il veut les pardonner. Est-ce qu'ils restent enfants de Dieu? Oui, ils restent enfants de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent encore servir Dieu? Oui, d'une certaine manière, mais ils ont tellement perdu de temps et de bénédiction. Mais, ils sont vraiment pardonnés et ils sont joyeux. Puis vous avez le fils aîné, qui lui était... pas de problème. On se lève le matin, on travaille, on ne fait jamais la fête parce qu'on ne veut pas prendre le temps, on n'a pas l'argent, enfin on ne veut pas prendre l'argent, on ne se réjouit de rien, travail, fidèle comme tout. Oui, mais quand l'autre frère vient avec des lambeaux et puis le père le reçoit avec joie, il fait la fête et il est content, il le prend dans ses bras, comment il réagit le frère aîné? Avec amertume. Avec mépris. Non seulement il méprise son frère, mais il méprise et critique son père de vouloir accueillir son frère. Et puis il critique son père et lui fait un faux procès. Il dit, mais moi,
Tu ne m'as jamais offert un veau gras pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Et lui, dès que ce vaurien revient, tu lui fais la fête. Et à moi, tu ne l'as jamais fait. Et le père lui rappelle, attends mon ami. Tout ce que j'ai est à toi. Lui, il a pris sa moitié. Il a tout dépensé. Il n'aura plus d'héritage. Hein. C'est fini. Il n'a plus d'héritage. Il va travailler comme salarié éventuellement, mais il n'héritera plus de rien. Toi, tu hérites de tout. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire la fête quand tu voulais? Tu es le patron ici. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire la fête? Pourquoi tu me critiques parce que je reçois ton frère qui d'ailleurs est repentant? Et là, on voit sortir du cœur de cet homme, qui apparemment est très bien, toute la laideur de son amertume. Et on trouve ça parfois même dans nos cœurs et dans nos églises. Un qui s'en va, qui vit les 400 coups et qui revient dans les larmes, dans la repentance. Et Dieu pardonne et Dieu le restaure. Il a perdu beaucoup de temps, mais Dieu le restaure quand même. Et il a la joie de revenir au Seigneur. Et puis les autres, ben oui, ça servait à quoi que j'étais fidèle toute ma vie à Dieu, je me suis privé de tout, j'ai pas eu les plaisirs que vous avez eus, j'ai dû obéir tout le temps, j'ai lu ma Bible tous les jours, j'étais très comme il faut, et ben maintenant ces gens-là, ils sont là, et Dieu ne devrait pas les recevoir, et moi je ne les reçois pas parce que, et voilà. Alors extérieurement, ils sont très comme il faut, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'amertume, de méchanceté, d'orgueil. Est-ce que c'est plus à la gloire de Dieu? Non. Finalement, le jeune, quand il était jeune, il n'a pas donné son cœur à son père. Il a perdu sa vie, mais il est revenu repentant. Le fils aîné, mais il n'a jamais vraiment donné son cœur à son père. Il a fait le boulot. Il a été, oui, performant, fidèle. Mais il n'avait pas l'amour de son père. Et donc, mon fils, donne-moi ton cœur. L'idéal, c'est être comme le fils aîné, de travailler fidèlement pour le Seigneur, mais avec un cœur plein de reconnaissance, d'amour et de grâce. Et quand quelqu'un revient à Dieu après avoir gâché sa vie, pouvoir dire, mais bien sûr, mon frère, tu es bienvenu. Tu te repens, tu reviens, Dieu t'accueille. Mais tu sais, moi, j'ai eu le privilège de rester fidèle à Dieu. Et je suis content que Dieu m'ait gardé fidèle et je suis content de t'accueillir puisque tu es revenu. C'est le meilleur des deux mondes. Parce qu'il garde à la fois son héritage et son amour. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ça se passe dans le